monde était habitué à ses larmes. Peut-être, demain, permettrait-on à Anton d'aller se promener en barque et mangerait-on le poisson qu'il rapporterait. À cette pensée, il se sentit très joyeux, d'une gaieté malicieuse et tendre. Tout à l'heure, la famille souperait, puis ce serait la dernière prière et la journée finirait ainsi. Chapitre 2. Le pavillon loué par les Tchekhov se trouvait au fond d'une cour. Ses murs étaient recouverts d'un badigeon de terre glaise. Dans la boue, la mauvaise herbe, les morceaux de briques et les ordures qui recouvraient la cour, les pas des hommes avaient grossièrement tracé un sentier vers le portail, un autre vers l'écurie. La bicoque semblait inclinée vers le côté, tassée et lasse comme une vieille femme. Un tonneau placé sous la gouttière recueillait l'eau des jours de pluie. L'eau était une denrée rare et précieuse. Des fenêtres à petits carreaux, un auvent de bois, trois chambrettes et une cuisine, voilà la maison où Anton était né. Il y avait la grande chambre, domaine du père, celle plus petite où dormaient les parents, et celle, plus petite encore, des enfants, avec le berceau de bois d'Anton. Dans la grande chambre, des icônes tapissaient tout un coin, selon la coutume des orthodoxes pieux. Jour et nuit, une veilleuse brillait devant elle. Sur un triangle étaient posés le missel et les saintes écritures. Un grand cierge dans son chandelier de cuivre les éclairait et, à certaines dates prescrites par l'Église, le père Tchekhov faisait brûler de l'encens devant les images. Quoique pauvre et près de ses sous, il n'était jamais avare d'encens. De véritables nuages s'élevaient et emplissaient les pièces, étouffant jusqu'à l'odeur de choux aigres qui venait de la cuisine. Des acacias poussaient derrière le logis. Au printemps, ces cours boueuses se couvraient de fleurs. La ville, bâtie sur la mer d'Azov, s'appelait Taganrog. Elle possédait une rue presque européenne, disaient les gens avec fierté. N'y voyait-on pas des maisons qui avaient jusqu'à 3 ou 4 étages, un théâtre, des magasins? On eût difficilement trouvé une enseigne écrite sans faute d'orthographe, mais qui s'en souciait. En revanche, ses trottoirs et ses chaussées étaient pavés pendant une centaine de mètres. Toutes les villes de la Russie ne pouvaient pas se vanter d'une telle prospérité. Mais, un peu plus loin, ces trottoirs seuls demeuraient. Plus loin encore, ils devenaient une piste fangeuse. Là vivaient les Tchekhov. Au faubourg commençait la steppe. Ces vastes étendues de terre, sans une montagne, sans une forêt, étaient traversées par les vents violents venus de l'Est, de l'Asie. L'hiver, ils étaient chargés de neige. L'été, ils soufflaient en tempête brûlante. Le port, à chaque saison, s'ensablait davantage. Or, le cœur de Taganrog était son port. C'était une cité marchande. Autrefois, Pierre le Grand avait fait surgir un bastion sur ce sol sauvage pour défendre ses possessions contre les Turcs. Puis il avait créé un port, et Taganrog, au commencement du XIXe siècle, était devenu heureux et prospère. Il exportait le blé, et Rostov sur le Don, ainsi qu'Odessa, lui laissait la première place. Il y avait alors de la vie et du mouvement à Taganrog, soupiraient les vieillards. Les meilleurs acteurs de Russie venaient jouer chez nous et nous avions un opéra italien, comme toute ville du Sud qui se respecte, comme Odessa. Puis les temps difficiles étaient venus. Le sable, charrié pendant des siècles par les rivières, avait fini par soulever le fond de la mer qui devenait dangereux pour les vaisseaux, et ses bateaux modernes étaient trop grands. Enfin, comble de disgrâce. Un chemin de fer relierait désormais directement Rostov sur le Don, la rivale, à Vladikaukase. Taganrog était inutile. Taganrog était ruiné. En quelques années, la petite ville prit un air morne, endormi. Le ciel bleu foncé, le soleil, la mer la faisaient paraître plaisante de loin, mais quand on y pénétrait, quelle crasse, quelle ignorance, quel vide. Sa boue et son silence, voilà ce qui frappait les voyageurs. En automne et à la fonte des neiges, il fallait traverser Taganrog comme on passe un ruisseau en sautillant d'une pierre à une autre, et celui qui perdait pied s'enfonçait jusqu'aux genoux dans une mer de boue. En été, dans ces rues chaudes, la poussière roulait lentement en nuages épais qu'aucun balayeur ne dérangeait jamais. Un chien flairait les épluchures, un harmonica jouait dans une cour, 2 ivrognes se battaient. Rarement on entendait un passant traîner ses bottes. Personne ne songeait à faire réparer son toit.